Bapla, une émission de Jean-Paul Mira avec aujourd'hui à la technique Yanis. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler, vous le savez, j'aime bien les aliments que nous pouvons consommer et j'aime bien les rattacher à leur qualité médicinale. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du litchi. Alors, vous connaissez sans doute l'orthographe française. En chinois, puisque c'est un fruit chinois, c'est L-I-Z-H-I, et ça se dit litchi. Donc, le litchi de Chine est communément appelé donc litchi, comme le nom chinois que je vous ai indiqué. On le prénomme aussi cerisier de Chine. C'est d'ailleurs la phonétique chinoise qui a donné le nom à ce fruit. Ils proviennent d'un arbre fruitier qui peut atteindre jusqu'à 15 mètres de haut et vivre plusieurs centaines d'années. Chaque arbre peut alors donner de 100 à 150 kg de fruits par an. C'était un fruit purement asiatique, mais qui est maintenant consommé et connu de tous. La partie comestible en tant que fruit est la rille, très juteux, l'enveloppe charnue qui se développe autour du noyau. Il fait partie de la même famille que le longan ou longani, pour certains qui ont voyagé en Asie du Sud-Est, ou le rambutan ou le litchi chevelu. C'est une sphère de 3 à 4 cm de diamètre, parfois en forme de cœur, entourée d'une enveloppe coriace d'aspect écailleux qui prend une couleur rose à rouge à maturité. Alors, sa culture en Chine remonte à plus de 3000 ans. Ses origines sont mystérieuses. Comme toujours, pour des sujets comme ça si lointains, il y a certaines histoires. Alors, certains Chinois disent qu'il vient de la province de Guangdong et d'autres de Sichuan. C'était un fruit très apprécié et même vénéré des empereurs chinois. Des messagers spéciaux devaient se relayer nuit et jour pour livrer les fruits les plus frais possibles, qui venaient du sud de la Chine, vers le centre, pour les caprices d'une reine. D'où un proverbe chinois, rapide comme un courrier de litchi. Il est considéré comme un fruit porte-bonheur. Il est coutume d'offrir ce fruit au moment du Nouvel An chinois. À la moitié du XVIIIe siècle, il fut importé à l'île de la Réunion, puis à Madagascar. En dehors de la Chine, ce sont ces deux îles qui sont les principaux producteurs de ce fruit, très coûteux. Mais il est aussi importé d'Inde et des Philippines. Il est dit que c'est un fruit qui aide à nous faire supporter l'hiver. Et ce, du fait de sa nature qui est tiède, c'est-à-dire qui va réchauffer le corps. On le mange et ça réchauffe le corps. On le trouve très facilement sur nos étals de novembre à février. Les Chinois ont un langage imagé quand ils veulent désigner les différentes espèces de fruits, de ce fruit. Donc, ils vont parler de goût de cannelle, le litchi parfumé, la corne de rhinocéros avec ses sous-entendus aphrodisiaques, la feuille noire, le doux rocher, sourire de la concubine impériale. On peut visiter en écoutant ces mots. Dans l'antique médecine chinoise, toutes les parties de l'arbre sont utilisées en pharmacopée. Mais pour ce qui nous intéresse ici, c'est le fruit qui est très connu pour ses propriétés diurétiques, fébrifuges, astringents et antalgiques. Diurétique, ben, ça permet d'aller aux toilettes et d'évacuer la partie non consommée par le corps. Fébrifuge, ça va être lié au problème de fièvre. Astringent, ça veut dire qu'il va restreindre. Et antalgique, ça veut dire qu'il va pouvoir calmer les douleurs. D'ailleurs, il soigne les maux de tête et il favorise le transit intestinal et améliore la digestion. Donc toujours pareil, comme nous en Europe, on avait les aliments qui nous soignent, mais on avait aussi les médicaments qui nous nourrissent. Donc, dans l'antique médecine chinoise, sa forme a été régulièrement comparée à un cœur. Sa couleur qui est rouge fait que le litchi a très rapidement été associé à l'amour. On lui prête donc des effets aphrodisiaques qui peuvent être décuplés si on l'associe à un peu de poudre de gingembre dans du champagne. Je vous répète cette formule sympathique, donc du litchi, associé à un peu de poudre de gingembre et tout ça dans du champagne. Vous m'en direz des nouvelles. À La Réunion, le litchi s'appelle lechi, comme quoi c'est le même fruit. Donc, si vous êtes allé à La Réunion, vous avez la même possibilité de réaliser le petit cocktail que je vous ai indiqué précédemment. Alors, que dit la médecine chinoise, hein, puisque c'est la référence pour ce fruit. Le litchi est de nature tiède et de saveur douce et acide. Tiède, c'est pour ça qu'on dit qu'il va nous réchauffer en hiver. Douce parce qu'il va avoir ce goût sucré que les enfants, c'est vrai, beaucoup de dames aiment et qui va être agréable à la bouche. Et aussi acide, c'est donc le côté astringent dont on a parlé tout à l'heure qui va permettre, dans certaines conditions, à certains endroits du corps, de retenir un certain nombre de matières ou de liquides. Alors, les aliments de nature tiède réchauffent l'organisme et stimulent les fonctions vitales. Ils conviennent parfaitement par temps froid, c'est ce que je vous ai déjà dit. Ils conviennent quand des signes de froid sont présents dans le corps, comme les mains et les pieds froids, ou en cas de paresse intestinale par froid interne. N'oubliez pas le litchi, on peut faire plein de choses avec. La saveur douce permet d'harmoniser, d'humidifier et de nourrir le corps. Elle appartient à l'ensemble rate-pancréas, et la saveur acide qui est à mettre en relation avec le foie permet d'absorber, de retenir et de consolider les liquides du corps. Donc c'était le côté astringent dont je parlais en début d'émission. Alors, en médecine chinoise, on parle de méridiens et on dit que les méridiens sont reliés à des organes. Dans le cas du litchi, les organes méridiens où vont se diriger principalement ses effets sont ceux de la rate et du foie. Ses actions principales sont de produire des liquides organiques. Le corps humain est fait d'à peu près 80% d'eau. Et suivant comment ce corps fonctionne, eh bien on peut avoir besoin de rajouter de l'eau. Donc c'est pas comme dans les voitures, on ne va pas mettre de l'eau dans le réservoir des essuie-glaces. Donc, action principale, produire des liquides organiques. Il est utile au sang. À partir du moment où il produit des liquides organiques, il est utile au sang, puisque dans le sang, il y a 55% de matière liée réellement au sang. Et dans ces 55%, il y a 91% de liquides organiques. Il régule l'énergie, le fameux qi chinois. Il calme les douleurs, on en a parlé tout à l'heure. Ça, c'est à partir du moment où on l'absorbe en tant qu'aliment et donc il a une action médicinale. À côté de ça, les Chinois ont, dans leur médecine traditionnelle, la pharmacopée chinoise, c'est-à-dire la préparation de sortes de tisanes mais adapté à chaque cas particulier et dans lesquels ils vont mettre donc un certain nombre d'ingrédients. Et dans ce cas-là, le litchi est utilisé en cas de soif excessive, donc il va permettre de satisfaire la soif et de la couper. Dans le cas d'éructations fréquentes, hein, vous savez, il y a des fois où on a trop mangé ou ça s'est mal passé et puis il y a quelques bruits qui sortent de notre bouche et ça va permettre également de l'arrêter. Toutes les douleurs gastriques, hein, tout ce qui concerne notre digestion, les difficultés à digérer, c'est-à-dire qu'on peut avoir des douleurs gastriques et quand même n'avoir aucune difficulté de digestion. et ça peut être le contraire aussi. Donc ça va intervenir dans des cas vraiment complémentaires. Toujours lié à la problématique des digestions, il va pouvoir être utilisé pour tout ce qui va être nausée et vomissement. On est toujours dans les mêmes zones. Les douleurs dentaires, dues à ce qu'on appelle un feu du vent, donc là je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que ça serait un cours de médecine. Il y a également tout ce qui est hémorragie interne, les diarrhées nocturnes et l'œdème du postpartum pour les femmes. Donc là, vous avez la totalité des fonctions du litchi. Donc ça, ce sont les fonctions de base, les actions de base du litchi en tant qu'aliment, médicament, mais également en tant qu'élément qui vient s'ajouter à un ensemble d'autres ingrédients pour faire de la pharmacopée chinoise. Alors les Chinois, eux, ils ont écrit des tas de bouquins, donc je ne vais pas vous citer les titres parce que ça peut être un peu rébarbatif. Donc, mais il faut savoir que pour certains auteurs, le litchi aide la mémoire et l'intelligence. Il tonifie le qi. Ça, on en avait déjà parlé tout à l'heure. En ayant une action directe sur l'énergie de la rate, il permet en effet de réguler celle-ci. Or, il est dit en médecine traditionnelle chinoise que l'énergie de la rate gouverne les pensées. Voilà le lien avec la mémoire et l'intelligence. Mais aussi la concentration, toujours le lien avec le mental, qui est une première étape vers la mémorisation. D'autre part, la rate, qui est le chef d'orchestre de la digestion du bol alimentaire, est la source de la production du sang et de l'énergie dans l'organisme. Donc on voit qu'il intervient auprès d'un organe qui joue un rôle très important dans le fonctionnement du corps, du point de vue de la médecine chinoise. Un autre auteur indique qu'il favorise l'éclosion des maladies éruptives chez les enfants. C'est un rôle très important. Et c'est dû en partie à sa saveur, mais aussi, selon la théorie des signatures, à sa couleur rouge qui se dirige vers le sang. C'est-à-dire que pour favoriser une éclosion, il faut que le sang circule suffisamment en quantité et de façon suffisamment dynamique pour accélérer le processus de la maladie éruptive. Toujours après un autre d'autres chercheurs, il a dit que les litchi tonifient le yang et sont utiles à l'énergie. Ils tonifient le foyer moyen, on revient à la rate et estomac, et ils clarifient les poumons. Et les litchi produisent les liquides organiques et désaltèrent. Et on peut également indiquer qu'ils adoucissent la gorge. En cas d'éructation fréquente, une petite recette, si vous avez des litchis, on peut griller 7 litchis avec leur peau, les réduire en poudre et boire cette poudre dans du thé ou dans l'eau tiède. Et donc ça va couper le principe de l'éructation. De la pulpe de litchi, l'équivalent de 5 fruits, appliqué une heure par jour pendant un mois, est très efficace contre les rhumatismes du genou. Donc, comme d'habitude, je vous présente un aliment, un médicament, ses actions et quelques utilisations. Ça, c'est la référence historique, ancienne, antique. Alors, qu'est-ce qui se dit au jour d'aujourd'hui avec les recherches modernes? Alors, il est reconnu que c'est une excellente source de vitamine C. Par là même, il a un rôle antioxydant non négligeable, il diminue le stress oxydatif. Heureusement que dans notre société dans laquelle nous vivons au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de stress. La vitamine C maintient l'intégrité de la peau, aide à la cicatrisation des plaies, protège les cellules contre le vieillissement, une inquiétude de nos concitoyens. donc contre le vieillissement prématuré causé par les radicaux libres et favorise les fonctions immunitaires. Reconnu également par les recherches modernes, le litchi est considéré comme une grande source en potassium qui permet de maintenir l'équilibre acido-basique avec le sodium dans le contrôle du pH à l'intérieur des cellules. C'est le même pH, le même principe de pH que le pH des piscines. Mais le réglage ne se fait pas de la même manière et il permet ce pH de vérifier effectivement si votre corps est acide ou basique. S'il est acide, ça veut dire qu'il est enclin, si ce n'est déjà commencé, à des inflammations internes. Et on va retrouver toutes les maladies chroniques et également les cancers dans cette problématique. Mais aussi, il participe au bon fonctionnement des reins et des glandes surrénales. Il diminue l'apparition des maladies cardiovasculaires et est essentiel dans les mécanismes de constructibilité musculaire. Toujours lié aux recherches modernes, le litchi est conseillé aux femmes qui suivent un régime pour perdre du poids. Il faut en prendre pas mal, mais surtout ne pas prendre que ça. Il stimule la production de collagène qui est responsable de l'élasticité de la peau. Il régénère également les cellules épidermiques. De plus, il est recommandé aux femmes enceintes et aux enfants en pleine croissance afin d'aider leur développement grâce à ces nutriments. Il s'avère efficace aussi pour lutter contre les douleurs de l'estomac tout en régulant l'appétit. De notre côté, les fibres facilitent le transit intestinal. Alors, pour terminer cette présentation, je vais parler du mode d'utilisation. Dans la pharmacopée traditionnelle, en usage interne, c'est-à-dire on l'insère dans notre corps, on pourrait faire une décoction de 5 à 10 fruits. On peut aussi griller ces fruits et en fabriquer une poudre. Pour augmenter leur nature yanguisante, on pourra aussi les préparer dans l'alcool. Donc là, on est dans la recherche de tonifier le yang, hein, ce qui permettra de lutter contre le froid, contre la diarrhée, un certain nombre de problèmes de ce type-là. En application externe locale, donc hein, application interne, application externe, on pourra utiliser la poudre mouillée ou le broyat du fruit. On peut aussi utiliser le noyau de litchi qui est doux, âpre et tiède. Il s'appelle alors le litchi-he. Il entre aussi dans le méridien du foie, mais aussi des reins. Il tiédit donc le foyer moyen, il harmonise l'énergie, il calme les douleurs et il chasse le froid pervers. Le froid pervers, c'est à partir du moment où le froid arrive à la saison du froid, mais qu'il va être beaucoup plus important que d'habitude pour la région où on est. Donc là, il va avoir une perversité parce que notre corps vivant dans ce pays, à cette saison-là, est habitué à une certaine température froide. Et là, il va être sujet à amener un certain nombre de maladies. De même qu'en ce début du mois d'octobre, les Toulousains sont surpris de trouver de la neige sur les Pyrénées, et également quand même une température relativement froide. Ce qui veut dire que cette température est anormale parce qu'elle arrive à une période de la saison où on n'a pas de froid. Il fait moins chaud qu'en été, mais ce n'est pas le froid. Et donc là aussi, on est face à un froid pervers. C'est pour ça que vous voyez des gens dont le nez coule, les gens qui se mouchent, certains qui toussent, etc. C'est-à-dire que le froid a pénétré dans le corps et produit un certain nombre de dégâts. Il est indiqué également dans les douleurs épigastriques, chroniques et récidivantes, les douleurs hernières, des hernies, qu'elles soient hiatales ou lombaires. Les douleurs par stagnation de sang et d'énergie au niveau du foie. Alors, une petite explication là. En médecine chinoise, le foie a pour fonction de drainer le sang et de l'envoyer dans toutes les parties du corps qui ont un besoin un peu plus important du sang que ce qui est fait. Par contre, le foie est un organe qui est en charge de la colère, qu'elle soit exprimée ou rentrée. Et lorsqu'il y a trop de colère chez quelqu'un, trop d'irritabilité, trop de conservation en soi de certains événements, de certains conflits, de certaines blessures, eh bien, ça va bloquer le foie. Et à partir de là, puisqu'il s'occupe du sang, eh bien, on va trouver un sang qui va ralentir et qui va poser un certain nombre de problèmes. C'est sûr qu'on trouve pas mal de stagnation du chi, du foie et du sang chez les femmes qui ont quand même une tendance à avoir des émotions intériorisées, mais les nouvelles générations arrivent et je crois que ça change. Par contre, il est contre-indiqué en cas d'humidité froide interne avec de la diarrhée. Hein, c'est-à-dire qu'il va effectivement rajouter du froid à du froid existant. Alors, il entre dans la pharmacopée chinoise, dans la composition de nombreuses pilules et poudres. Mais voyez votre médecin chinois et discutez avec lui. Aussi. Et si vous ne l'avez fait, c'est de rencontrer un médecin chinois, un thérapeute qui pratique la médecine chinoise, et de voir ce que vous pouvez faire avec lui et comment améliorer soit votre diététique, soit votre santé. Mais bien sûr, le litchi, pour se manger comme n'importe quel fruit, il peut se consommer tel quel. Mais il entre aussi dans la composition de nombreuses recettes. Sa chair peut être mixée. Attention à ne pas consommer trop de jus, car cela risque de se retourner contre l'organisme. Hein, c'est quand même un médicament, donc si vous buvez que du jus de litchi, à un moment donné, vous allez, au lieu d'avoir les douleurs abdominales qui disparaissent, vous aurez au contraire l'installation des douleurs abdominales. Alors, frais à température ambiante, il faut le consommer dans les 48 heures. Sinon, il fermente et devient acide. Il peut se conserver au réfrigérateur dans un sac en plastique perforé pendant plusieurs semaines. Ce qui est rarement le cas, car il est difficile de résister quand même à un litchi qui est dans son frigo. Et on parle d'un sac en plastique, bien évidemment, c'est les nouveaux sacs en plastique qui ne vont pas aller nourrir l'île de plastique qui est au milieu des océans. Pour le consommer, on retire la coque avec les doigts ou un couteau, en prenant soin de ne pas couper la chair. On peut également le trouver en conserve, mais c'est dommage de ne pas vivre l'expérience de cet aliment médicament, de cet ali médicament. Il peut se retrouver dans les smoothies, les yaourts. Là aussi, on peut se demander si c'est bien raisonnable de le consommer, ainsi quand on sait qu'en médecine chinoise, que la rate déteste l'humidité. Hein, les yaourts sont porteurs d'humidité et les smoothies qui sont faits également à base de lait et de yaourt amènent bien souvent dans beaucoup d'organismes l'humidité. C'est pour ça que cette phrase est intéressante. Or, ce type de préparation est un véritable concentré d'humidité, hein, le smoothie, le yaourt. Donc attention donc aux personnes qui sont en surpoids, à tendance de rétention d'eau, de temps en temps, pas de problème, mais tous les jours, attention à la casse. Alors, une petite légende pour sourire, puisque les Chinois aiment bien se raconter des histoires liées à leur vie, à leur passé, et en faire un lien avec les aliments, avec un certain nombre d'éléments de leur vie traditionnelle et actuelle. Alors, une légende raconte que dans la région de Shenzhen, non loin de Canton, une jeune fille appelée Xie Xiang rentrait chez elle. Sur le chemin du retour, elle trouve un jardin de litchi. La petite décide de s'installer sous un arbre et profite de la tranquillité ambiante en oubliant le temps qui passe. Soudainement, se rendant compte de l'heure, elle se lève et court pour rentrer chez elle. Dans la précipitation, elle laisse un fil vert de sa robe sur la branche d'un arbre. C'est pourquoi aujourd'hui, les litchi possèdent tous une entaille verte sur leur coque. C'est toujours charmant, les petites histoires chinoises. Les litchi séchés peuvent être dégustés comme des raisins secs ou ajoutés dans certaines boissons à la place du sucre. Je vais terminer cette présentation du litchi en parlant quand même de quelques contre-indications. Il convient de ne pas en consommer en excès. En cas de feu du foie qui est dû à une déficience de liquide, Par exemple, aussi en cas de bouffée de chaleur, hein, on a trop de chaleur qui consomme les liquides, et si on en consomme trop, eh bien, il va rajouter également à cette problématique. L'abus de litchi peut augmenter les phénomènes de chaleur, les inflammations. En trop grande quantité, il peut donner des gingivites et des épistaxis, c'est-à-dire les saignements de nez. Donc, n'oubliez pas, le litchi est un aliment qui, une fois que vous l'avez ingéré, il est tiède. C'est-à-dire qu'il apporte de la chaleur à votre corps. Ce qui veut dire que s'il y a déjà de la chaleur dans votre corps, il va augmenter cette chaleur qui va obligatoirement créer des problèmes de fonctionnement de ce corps. Alors, nous avons là un fruit qui est purement chinois. On le retrouve d'ailleurs dans de très nombreux récits de pharmacopée traditionnelle. C'est un fruit qui a su s'exporter dans le monde entier et qui ne laisse pas d'indifférence les papilles gustatives occidentales. Et un ancien botaniste du XIXe siècle, M. Loiseleur des Longchamps, s'était légèrement trompé lorsqu'il disait que cet arbre intéressant a été transporté de la Chine à l'île de France par M. Poivre. Mais il ne pourra jamais être qu'un objet de curiosité parce qu'il faut le laisser constamment dans la serre chaude. Nous avons vu un bel individu en fleurs au mois de mai 1822 chez M. etc. Donc vous voyez que lorsqu'il est arrivé, il y a eu des confusions avec le poivre et le fait qu'on ne pouvait rien en tirer, etc. Puisque le poivre est également arrivé de pays lointains. Alors, la plante médicinale sous-entend évidemment quelques règles à suivre quant à sa consommation. On ne la prend pas après un repas, mais entre les repas. Hein, c'est un fruit. Même les autres fruits occidentaux, ne les mangez pas en fin de repas, vous les mangez entre les repas. Si vous les mangez à la fin du repas, ça vient s'ajouter à l'ensemble des aliments qui ont été ingérés, qui ont été déjà mâché, etc. Et donc, le fruit va attendre que la digestion soit faite pour être lui-même digéré. Et les fruits, à ce moment-là, deviennent acides et vont donc apporter de l'acidité du corps et de la chaleur. Ce sont toutes ces règles de diététique qui font partie des méthodes Yang Sheng Sha que nous développons dans un certain nombre d'endroits. On va essayer de terminer par une petite pointe d'humour, un petit clin d'œil, je dirais plutôt. C'est quelqu'un qui parle à une personne qu'il rencontre et qui lui dit « Mais tes citrons viennent du Maroc, tes litchis de Chine, tes piments du Sénégal, tes mangues viennent du Bangui. » Elles peuvent venir de plein de pays du monde d'ailleurs. Tes noix coco de Côte d'Ivoire, tes ananas de Californie ou de La Réunion, etc. Et tu reproches à ton voisin d'être un étranger ? Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. ¶¶